Donc je disais que j'étais délégué général de l'association Ictus.
C'est mieux là ?
Qui est une association au service de l'engagement des catholiques dans la vie civique, notamment par la formation à l'action civique. Donc Pierre m'a invité à venir faire une conférence sur ce thème du nouveau catholicisme social, suite à un appel pour un nouveau catholicisme social qui a été lancé dans le magazine La Vie le 9 janvier dernier par une vingtaine de personnalités et intellectuels catholiques. Et je suis l'un des initiateurs de cet appel, puisque nous sommes trois à avoir pris cette initiative. Moi-même, avec Joseph Touvenel, qui est le vice-président de la CFTC, que Hervé Brie, ici présent, connaît bien. C'est ton camarade syndicaliste. Voilà. Et un professeur d'économie et de gestion de Nantes, qui s'appelle Mathieu Deschessahar. Et consécutivement à la grave crise sociale manifestée par les manifestations des Gilets jaunes et la naissance et la montée de ce mouvement social très fort et très durable, nous nous sommes dit que c'était le moment favorable pour faire prendre conscience à chacun de la gravité et de l'importance de la question sociale dans la période de l'histoire que nous vivons. Et nous avons appelé cet appel nouveau catholicisme social, parce qu'il nous a semblé que nous avions besoin, pour répondre à la nouvelle question sociale qui se pose aujourd'hui, d'un nouveau catholicisme social qui apporte des réponses nouvelles à une situation particulièrement vive. Et en choisissant ce terme de catholicisme social, nous nous sommes situés dans la filiation historique du catholicisme social. Donc un rappel d'histoire rapide. Au XIXe siècle, il y a eu un mouvement très important qui a eu une influence très forte dans l'histoire de France, dans l'histoire politique et sociale de la France, qui s'appelait les catholiques sociaux. Vous connaissez sans doute quelques-uns des noms des grands leaders des catholiques sociaux, par exemple Frédéric Ozanam, ou encore Albert Demain, ou René de la Tour du Pin. Ils ont été très très nombreux. Et ces catholiques sociaux, au XIXe siècle, se sont saisis de ce qu'on appelait alors la question sociale, déjà. Et la question sociale, à l'époque, était principalement confondue avec la question ouvrière, puisque nous étions dans un contexte de révolution industrielle, avec un bouleversement très très important de la société, du fait que les populations paysannes, une partie des populations paysannes, ont quitté la terre pour rejoindre les usines. Donc c'est un déracinement assez très important et un changement culturel profond. Et c'est le début... C'est le début de cet exode rural, puis après qui s'est poursuivi par la suite, même si la France était encore très rurale après la révolution industrielle, et elle l'est beaucoup moins aujourd'hui. Mais c'est un événement majeur, et la naissance de cette classe ouvrière, c'était nouveau, même si par le passé il y avait eu des manufactures, mais ce mode de travail salarié à l'usine, qu'on a appelé prolétariat, était une réalité nouvelle dans la modernité du 19e siècle. Et il s'est trouvé que les ouvriers travaillaient à l'époque dans des conditions qui étaient indignes. Et des catholiques se sont saisis de cette condition ouvrière et se sont levés pour défendre la classe ouvrière face à l'exploitation qui était pratiquée à leurs dépens, en termes de conditions de travail, en termes de rémunération, de congés, etc. Donc il n'y avait pas de règles sociales. Aujourd'hui, on a un code du travail très épais. À l'époque, il tenait peut-être sur ce qui pourrait être un post-it aujourd'hui. Et donc les catholiques sociaux se sont levés pour demander des lois sociales, demander de protéger la classe ouvrière. Donc cette question sociale du 19e siècle, elle touchait principalement, elle recouvrait principalement la condition ouvrière et une classe sociale dans la société. C'est-à-dire la société dans son ensemble était encore une société où le lien social globalement fonctionnait, malgré tous les soubresauts de l'histoire difficile après la Révolution française, des divisions politiques, etc. Il y avait une société qui fonctionnait, où on pouvait vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui. Et il y avait cette condition ouvrière. Et dans le diagnostic que nous avons fait pour aujourd'hui, il a semblé que la question sociale d'aujourd'hui était beaucoup plus grave parce qu'elle ne touchait pas simplement une classe sociale d'une part, mais qu'elle touchait le lien social de manière beaucoup plus large à travers l'ensemble de la société, et d'autre part que dans la situation présente, il ne suffisait pas de quelques lois pour régler une situation où on a le sentiment en France d'une fragmentation, d'une fracturation, d'une atomisation tribale, culturelle, géographique et autres, religieuse aussi, et on ne sait plus très bien comment retisser les liens, le sentiment d'appartenance à une communauté nationale, le sentiment de participer à un récit commun, à une histoire commune, etc. Et on voit bien que tout ça est en panne, et tous les médias disent comment pouvons-nous faire pour vivre ensemble, hein. Là, il y a un diagnostic partagé par tous. Au secours, on n'arrive plus à vivre ensemble. Donc on fait des incantations sur ce qu'on appelle le vivre ensemble, on crée le concept, nous sommes la société du vivre ensemble. Mais quand on commence à parler du vivre ensemble, ça veut dire qu'on n'arrive plus à vivre ensemble, puisque quand on vit ensemble et que vivre ensemble ne pose pas de difficultés, on n'a pas besoin d'inventer un concept comme le vivre ensemble, puisqu'on parle d'une chose qui est naturelle et qui se fait naturellement dans les collectivités humaines, par les communautés naturelles, la famille, les communes, etc. Et on parle de ça quand il y a un problème. Donc on voit bien qu'il y a ce problème qui est un ensemble de causes, bien sûr, que je voudrais évoquer. Et pour bien comprendre cet appel pour un nouveau catholicisme social, je pense qu'il faut bien comprendre ce qu'est la question sociale et ce qu'est la fragmentation de notre pays aujourd'hui, et bien comprendre comment et pourquoi la France, mais pas seulement la France, parce que c'est un problème mondial, comment la France part en morceaux, en quelque sorte. En 2014, il y a un géographe qui s'appelle Christophe Guilly, alors je ne sais jamais si je prononce bien son nom, parce que c'est un indice Guilly, on va dire Guilly, Christophe Guilly, qui a publié un essai qui s'appelle « La France périphérique ». Terme de France périphérique qu'on a beaucoup entendu dans l'actualité ces dernières semaines, depuis le mois de novembre. Mais Guy, lui, a écrit davantage qu'un essai où il exprime une opinion. Il a exposé et synthétisé d'une manière accessible au grand public des travaux de l'universitaire qu'il est. C'est un géographe, c'est pas un nouvel idéologue d'une nouvelle lutte des classes entre le peuple et les élites, etc. C'est un géographe qui a observé la France et qui a voulu en donner une cartographie nouvelle et adaptée à la situation d'aujourd'hui. Et il a signifié qu'il y avait en France une fracture importante malgré les apparences de richesse économique de la France. Puisque si on regarde la situation de la France dans l'économie mondialisée, on s'en sort quand même, malgré les difficultés, malgré les déficits, etc. Donc on peut encore avoir l'illusion d'un certain enrichissement de la société française. On est toujours la septième, on est classé septième au classement mondial de la richesse moyenne par ménage. Donc on va dire, on n'est pas un pays pauvre, parce qu'en moyenne par ménage, on est septième, et on sait que quand on est septième mondial sur ce classement-là, on est plutôt à mettre dans la catégorie des pays riches. Par ailleurs, si on prend toutes les grandes entreprises françaises que nous connaissons, toutes nos grandes boutiques du CAC 40, qui ont leur siège pour beaucoup maintenant à la Défense, sont des entreprises qui se sont bien adaptées à la mondialisation, à la globalisation, qui grossissent, qui font des bénéfices, etc. Donc on peut avoir ce sentiment que la France continue à s'enrichir et s'en sort. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Mais l'économiste Pierre-Yves Gomez, que vous connaissez peut-être, c'est lui qui a monté des parcours sur la doctrine sociale de l'Église, les parcours Zachée, que vous connaissez peut-être, dit que nous vivons dans une ère d'opulence factice. Il dit que cette opulence est factice. Et ça rejoint ce que dit Christophe Guilly. Lui, il parle de l'illusion de l'enrichissement. Parce qu'il dit, certes, il y a un enrichissement, mais certains en bénéficient et pas d'autres. Et quand on dit certains, c'est certaines zones, ou certaines géographies, ou même mieux, certaines sociogéographies, c'est-à-dire en mêlant la sociologie et la géographie. Donc là, et il dit, il y a des territoires en France qui sont les perdants de la mobilisation, de la mondialisation, et qui sont, d'une certaine manière, exclus de l'histoire aujourd'hui, qui sont les perdants de l'histoire, et cette France périphérique, comme il l'appelle, et globalement la France rurale, celle des petites et moyennes villes, des espaces périurbains, par opposition aux grands espaces métropolitains. Et ces territoires de la France périphérique rassemblent aujourd'hui 80% des classes populaires. Et elles cumulent un certain nombre de fragilités économiques et sociales. Le travail de Guilly a quelque chose de novateur en sens où il renverse les catégories qui était classique dans la manière de manifester les questions sociales, les questions sociologiques. Vous connaissez tous la nomenclature de l'INSEE, les fameuses catégories socio-professionnelles, les CSP. CSP+, CSP-, etc., toute une échelle hiérarchique en fonction de sa profession. Ouvrier, employé, cadre, profession intellectuelle supérieure, il y a toute une classification de l'INSEE. Et au milieu, il y a ce qu'on a toujours appelé une classe moyenne, qui est la classe majoritaire, la fameuse classe moyenne. Et dans la classification de l'INSEE, il y a une classification classique, traditionnelle, qui consiste à dire, en gros, il y a l'urbain et il y a le rural, donc les espaces urbains et les espaces non urbains, en quelque sorte. Et par exemple, l'INSEE compte 241 agglomérations qui regroupent 83% de la population. Donc l'INSEE va dire, les villes, c'est 83% de la population, et c'est vrai. Mais est-ce que ça signifie quelque chose? Est-ce que c'est signifiant en termes d'analyse sociologique et politique? Christophe Gulli dit non, ça n'est pas signifiant, ça n'est plus signifiant. Ça l'a été, mais ça ne l'est plus. Et il dit la classe moyenne, elle est en train de disparaître. Elle est en voie de déclassement, mais elle est aussi en pleine fragmentation au sein de la fragmentation des territoires. Donc il a dit il faut une nouvelle classification. Et sa nouvelle classification, il l'a établie comme un géographe. Il a pris toutes les zones de France à partir d'un indice de fragilité. Il a pris en compte un certain nombre de critères, je vais vous les dire, la part d'ouvriers et d'employés, l'évolution de cette part d'ouvriers et d'employés entre les années 99 et 2010, le pourcentage d'emplois à temps partiel et d'emplois précaires, bien sûr le taux de chômage, les propriétaires occupants précaires, c'est-à-dire des gens qui sont propriétaires de logements mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et le pourcentage des revenus qui est inférieur au revenu médian. Le revenu médian, ce n'est pas le revenu moyen, c'est le revenu qui est pile au milieu en nombre. Hein. Donc il a fait cet indice de fragilité et il l'a appliqué aux communes françaises, tout simplement. Et il a obtenu des résultats qui sont radicalement de ceux de l'INSEE. Et il y a dit, il y a l'espace, il l'a appelé l'espace métropolitain, davantage que urbain, métropolitain, c'est-à-dire les grandes métropoles. C'est-à-dire que la ville de Mende, c'est urbain, mais ce n'est pas une grande métropole. Vous comprenez? Pourtant, c'est une ville importante dans le département. Donc, espace métropolitain, il a compté qu'en France, il y avait 25 aires urbaines les plus peuplées. Ça représentait 2650 communes, soit 10% des communes françaises et 40% de la population française. Et de l'autre côté, à partir de ces indices de fragilité, il a quantifié les communes qui constituent ce qu'il appelle la France périphérique. Et là, avec ses agglomérations plus modestes, les petites, moyennes villes, la ruralité, etc. Et là, il a compté 34 000 communes qui rentrent dans ces critères d'indice de fragilité, soit 90% des communes françaises. Et quand on compte la population, c'est 60% de la population française. Vous voyez ? Donc quand on est arrivé du classement classique de l'INSEE à 241 agglomérations, 80%, 3% de la population, on va dire, urbaine, lui dit, il y a 60% de la population française qui vit dans des espaces géographiques qui sont en situation de fragilité et qui sont en situation très difficile. Alors, bien sûr, c'est un travail d'universitaire et bien sûr, c'est une généralisation. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tous les gens qui vivent dans la France périphérique n'arrivent pas à joindre les deux bouts, n'arrivent pas à vivre du fruit de leur travail, etc. Ou que toutes les personnes qui sont dans les espaces métropolitains vont bien. Mais ça veut dire que ce sont les grandes tendances structurantes. Et quand on fait ce type de travaux, on est bien obligé de généraliser. Parfois, quand on réfléchit aux choses, on dit, faut surtout pas, non, mais là, faut pas généraliser. Mais si on généralise pas les choses, on peut pas penser, puisqu'on peut pas créer, on peut pas imaginer de système de pensée d'un phénomène, et même d'observation d'un phénomène sans une certaine généralisation. Et dans les travaux de Gulli, il ne parle pas de la France de la plus grande pauvreté. Hein, attention, c'est une distinction très importante. C'est-à-dire celle, par exemple, dont s'occupe le Secours catholique, avec la plupart des gens au minimum social, avec beaucoup d'étrangers, dans les accueils du Secours catholique, beaucoup d'étrangers. Il ne parle pas de cette réalité-là, puisque là, on parle de gens qui sont plutôt en périphérie des mais dans les espaces métropolitains. Lui, il parle de cette sociologie-là, qu'on pourrait appeler la sociologie des profondeurs de la France profonde. Cette France profonde, donc, qui n'est pas la plus grande pauvreté, mais qui est dans une situation de fragilité, et c'est là où des gens sont en déclassement, en exclusion d'un récit global, ont l'impression de ne plus servir à rien, qu'on ne les écoute plus, qu'ils ne comptent plus, que tout se désertifie, que les services publics foutent le camp, mais qu'en contrepartie, les taxes continuent à augmenter, donc ils disent bah, « où va notre argent ?» etc. Et c'est le cœur sociologique des Gilets jaunes. Donc quand est arrivée la crise des Gilets jaunes, chacun a remarqué rapidement que c'était la France décrite par Guy-Louis qui était dans la rue avec un gilet jaune sur le dos, sur les ronds-points, etc. Et très clairement, c'est le cas. Cette France profonde, même dans le quatrième samedi, l'acte 4 du 8 décembre, je suis allé sur les Champs-Élysées, la totalité des gens que j'ai abordés dans la rue et qui j'ai parlé venaient de province, de la France profonde, ne venaient pas d'un grand espace métropolitain, étaient des commerçants, des simples employés, des ouvriers, des gens qui travaillaient aussi. Donc c'est une France du travail. C'est une France laborieuse, mais une France qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Hein. Donc, ça veut dire que ces gens-là n'arrivent pas à vivre dignement du fruit de leur travail. Ce qui est un des critères essentiels de ce qu'on peut appeler de la justice sociale, d'une certaine manière. Donc il n'est pas étonnant que nous vivions cette crise sociale très forte, manifestée par le mouvement des Gilets jaunes, et elle a un caractère durable. Parce qu'on parle de choses qui est profond, qui est massif et qui est structurant. Quel que soit l'avenir du mouvement lui-même et du symbole Gilets jaunes, on ne sait pas ce qui va arriver demain avec ce mouvement. La réalité, cette réalité-là, de fracture socio-géographique, va rester. Et la France se trouve fracturée sur le plan socio-géographique, et je ne parle pas des autres fracturations, mais fracturations culturelles, on parle de la communautarisation, etc. Donc on voit bien qu'on est une situation qui est difficile. Et culturellement, même entre la culture des élites urbaines et la culture de la France profonde, ce sont deux mondes très différents. Vous connaissez Raphaël Glucksmann, le jeune philosophe qui a pris la tête d'une liste européenne, d'ailleurs, de la gauche, quoi, une des listes de gauche. Et il disait dans une interview, c'est incroyable parce que, et il avait un accent de sincérité, hein, il disait ça très sincèrement, il dit quand je vais à Londres, à New York et à Berlin, que je vois mes amis, les gens que je connais, etc., je suis culturellement chez moi. Quand je vais en Picardie profonde, je me sens à l'étranger. Je ne suis pas culturellement chez moi. Et pourtant, il est français comme le Picard, hein, comme le Picard de la Picardie profonde. Et ça, il le reconnaît. Et là, il a dit, ça veut donc dire qu'on a un gros problème quand même. Ils sont assez peu à le comprendre ça d'ailleurs dans sa corporation, on pourrait dire, ou dans sa classe sociale. Donc il y a ceux qui sont les individus de n'importe où, initiés, mobiles, qui sont dans le coup, et les autres. Et c'est le peuple profond que certains appellent le peuple de quelque part. Des gens qui sont nés quelque part, qui vivent quelque part, qui ont un enracinement. Et qu'exige le nouveau monde, la mondialisation, la globalisation, la libéralisation des échanges, etc. Elle veut une hyper-adaptabilité de tous. C'est un mouvement perpétuel, avec une accélération incroyable depuis le début des années 90, qui sont vraiment la charnière, c'est les débuts des années 90, l'effet de mondialisation, de financiarisation de l'économie, etc. Et au bout du compte, vous vous trouvez dans une situation où le monde va de plus en plus vite, où les choses sont globales et interdépendantes dans le cadre des principes de libre-échange débridé et d'échange des capitaux, des marchandises et même des hommes à travers les phénomènes de migration massive. Et il y a un certain nombre de gens, ça ne suit pas. Macron, il le sait. Qu'est-ce qu'il dit, Macron ? Il dit, les gars, faut s'adapter. Donc, faut être mobile. Faut pouvoir travailler dans tel département pendant 2 ans, puis après aller à 500 km, puis après aller à l'étranger, etc. Et pour faire ça, pour être mobile, faut se former en permanence. Et faut être capable de changer de métier tout le temps. Il a dit ça. Et là, il s'adresse à des gens qui sont profondément sédentaires, enracinés, souvent issus de cultures ouvrières ou paysannes, etc., et qui n'ont pas forcément le capital relationnel, culturel, et cette capacité de mobilité. Parce que la mobilité, c'est d'une certaine manière, c'est la caractéristique des classes les plus instruites, les plus... Hein. Mais la classe ouvrière, elle est moins mobile. Moi, que j'ai un client, c'est un groupe Verrier, qui fabrique des belles bouteilles de verre, donc il y a plusieurs usines qui sont vraiment en France périphérique. Une en Audomarois, là, du côté de Saint-Omer, une à Feuquières, dans l'Oise, près de Beauvais, une au Havre, là, qui est plus dans une aire urbaine. Vous dites à un ouvrier de Feuquières, à un moment, il y en a qui est là, je lui dis, bah, vous êtes un enfant du pays. Il me dit, ah, non, moi, je suis de Grandvilliers. Mais Grandvilliers, ça a 10, je crois qu'il y a 10 ou 12 kilomètres, vous voyez. C'est enfin, du pays, donc c'est dire que c'est très, très différent. Donc, on se retrouve dans une situation où, si on veut que les gens s'adaptent, encore faut-il qu'ils soient adaptables. Alors, des personnes seront adaptables. Donc, des inadaptés deviendront... Des inadaptés adaptables, ils vont s'adapter, à la limite. Ça va être dur, etc., on va y arriver. Mais qu'est-ce qu'on va faire des inadaptés non adaptables? Vous voyez? Et du coup, on se retrouve, ça s'appelle un darwinisme social, et après, je vais prendre votre question. Le darwinisme social... C'est le principe de Darwin, c'est que les espèces qui sont capables de s'adapter à un environnement nouveau survivent et les autres meurent. Bon, eh bien, on est face à ça, un darwinisme social où elles sont des espèces, qu'on dit des classes sociales ou des types de cultures, de socio-géographie, etc., qui ont du mal à s'adapter. Alors, on va quand même pas les tuer, c'est pas ça que je veux dire, mais on veut dire qu'ils vont forcément être exclus de la participation à la vie sociale et à la société. Dans une société qui elle-même est déjà tellement, comment dire, tellement liquide qu'on ne sait plus à quoi se raccrocher. Donc on imagine les conséquences. Oui, madame, vous vouliez préciser quelque chose.
Ça peut être un choix de vie aussi, parce que voilà, déménager tous les 3 ans, je pense que quand on arrive à 50 ans, on se rend compte qu'on n'a pas de mauvais amis, qu'on a une vie très superficielle, qu'on est mort, on a beaucoup moins construit, on aura l'impression d'être passé à travers sa vie, même si on a une réussite sociale, par rapport à quelqu'un qui reste. Moi, j'ai des amis espagnols, j'ai de la famille en Italie. Il y a des liens sociaux extrêmement forts, locaux. En fait, les gens ne bougent pas parce qu'ils préfèrent rester avec leur famille, avec leurs amis d'enfance. Et c'est des sociétés qui se tiennent plus que ces sociétés volatiles où tout le monde bouge et où les choses se désagrègent aussi.
Oui, absolument.
Ils sont moins riches. Enfin, ils sont moins riches financièrement, mais ils sont beaucoup plus riches dans leur vie.
Socialement, culturellement, donc richesse sociale, culturelle relationnelle.
Dans la beauté des relations amicales, fortes, ils peuvent compter sur le soutien des gens, ils ne finissent pas dans la rue, comme chez nous.
Non, non. Absolument. Et on voit bien qu'il y a un fossé entre cette vision enracinée du monde, c'est même pas une vision, c'est une réalité vécue, et le projet global. Le projet global, j'ai dit hyper adaptabilité, hyper mobilité, hyper plasticité de toutes choses. Les valeurs, la famille, on le voit bien, la famille, elle doit pouvoir évoluer tous les. C'est plus tous les 10 ans, c'est bientôt tous les ans qu'on fait évoluer les modèles de famille, etc. Donc on va mettre tous les repères s'étiolent. La culture, hyper aussi, plasticité de la culture. Donc, où est la culture commune, où est l'appartenance? Comment on vit collectivement sans le sentiment d'appartenance? La langue, même la langue, elle est hyper plastique aujourd'hui. Vous voyez, la plasticité de la langue française, espèce de déperdition absolument extraordinaire, du vocabulaire, de la syntaxe, cette incapacité, enfin, de l'orthographe, même les parmi les élites, à ne serait-ce que conjuguer correctement un participe passé, et puis l'invasion du langage globish, anglais, etc., avec des mots anglais partout, etc. Tout ça, c'est mêlé. Et tout ça, c'est mêlé, et il y a une partie de la France qui ne marche pas là-dedans, qui ne suit pas ça, mais qui n'en veut pas. Et elle est exclue, donc elle est au bord de la route, donc elle rouspète, pour utiliser un euphémisme. Et c'est normal. Et donc, cet appel pour un nouveau catholicisme social, nous l'avons publié pour essayer de faire prendre conscience de l'importance de cette question sociale. Son champ très large, le fait que ça concerne énormément de gens, France périphérique, 60% de la France, c'est pas rien quand même. Donc c'est pas une classe sociale qui représenterait, je sais pas, 300, 500 000 personnes. Je sais pas combien il y avait d'ouvriers au 19e siècle pendant la Révolution industrielle. C'était un taux de la population française qui était encore assez faible. Donc on est face à quelque chose de beaucoup plus large et qui appelle une action, qui appelle une réaction et qui appelle à construire quelque chose de nouveau ou à reconstruire le lien social là où il a été détruit. Et l'ambition des initiateurs de l'appel, c'est de se dire, puisque les catholiques ont un trésor entre les mains qui est la doctrine sociale de l'Église, qui est un enracinement aussi à travers les paroisses, etc., eh bien les catholiques qui ne sont pas là pour s'occuper de leur propre communauté, mais pour le bien de la grande communauté civique, et qui sont des citoyens comme les autres, peuvent apporter à ce moment précis de l'histoire quelque chose d'important à notre pays. Alors, mobiliser pour la famille, bien sûr, et les catholiques le font, se mobiliser sur la pauvreté, déjà, ça, les catholiques le font. Là, je ne parle pas de la grande pauvreté. Il n'y a pas à réinventer ce que le Secours catholique et d'autres associations caritatives font vis-à-vis de la grande pauvreté. En revanche, nous sommes convaincus qu'il y a quelque chose à inventer sur le traitement de la question sociale, parce que c'est un élément structurant de l'histoire et des décennies qui viennent, et ça va avoir une influence très forte sur l'avenir de notre pays. Et quand on parle de la France, il y a d'autres pays européens qui sont dans le même cas. Hein. Et c'est un phénomène très large. Et les phénomènes dont on parle sur l'économie mondialisée, ben forcément, c'est des problèmes mondiaux. Donc c'est difficile de régler d'un coup, comme ça, des problèmes mondiaux. De s'affronter à cette logique du libre-échange, de trouver le moyen de lutter contre les grandes puissances économiques qui vont imposer un certain nombre de règles, ou plutôt de non-règles, pour continuer à prospérer sur l'hypermobilité, sur l'hyperadaptabilité, etc. En attendant, puisqu'on a l'impression que ce monde est trop vaste, qu'il va trop vite et qu'il échappe à nos bras, en quelque sorte, il est trop vaste pour nos pauvres petits bras, même si c'est des petits bras musclés parfois, il dit comment faire? Qui peut changer le monde aujourd'hui? Difficile.
Attends, mais déjà, qui peut changer son propre cœur?
Et qui peut changer son propre cœur?
Il y a une telle pression sur le modèle social, le modèle qui a été évoqué tout à l'heure, de l'hyperflexibilité, d'adaptabilité, que soi-même, penser autrement est devenu difficile.
Ah oui.
Penser autrement, c'est déjà rentrer en dissidence.
Oui, parce qu'il y a ce que les Anglais, quoi, les Anglo-Saxons appellent le TINA. Je crois que vous avez déjà entendu parler du TINA.
There is no alternative.
Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas d'autre choix. Pas d'alternative. On attribue cet adage à Margaret Thatcher quand elle a opéré la révolution libérale et conservatrice en Angleterre dans les années 80, s'affrontant d'une manière incroyable d'ailleurs aux mineurs anglais, écrasant la révolte des mineurs anglais d'une manière particulièrement impitoyable. Et le discours de Margaret Thatcher, la dame de fer, c'est de dire « il n'y a pas de choix, there is no alternative, c'est comme ça. Le monde change, il faut faire ça, ça va aller comme ça, vous n'avez pas le choix. » Et ça s'est répandu, et aujourd'hui on entend beaucoup « on n'a pas le choix ». J'ai vu un clip de campagne de La République En Marche, son clip de campagne. Ça commence par Emmanuel Macron qui dit « il n'y a pas le choix ». Intéressant. En démocratie, on n'a pas le choix. Dans le pays où les libertés individuelles, où l'autodétermination, l'autonomie de la personne, la capacité de choisir sa propre vie, etc., tout ce qu'on veut, d'ailleurs on peut choisir aujourd'hui tout ce qu'on veut, son sexe, son orientation, on peut en changer, etc. Et là, tout d'un coup...
On n'a pas le choix, c'est quand même la planète sur laquelle on vit.
Ouais.
On ne peut pas la changer, on n'en est qu'une. Donc, par exemple, s'il dit on n'a pas le choix, il faut sauver la planète, on peut adhérer. Donc il y a quand même des choses sur lesquelles on n'a pas le choix.
Oui, on peut le voir comme ça.
On ne peut pas encore s'exiler sur la Lune ou sur Mars et y vivre.
Mais qu'est-ce que ça crée comme situation quand même? Ça crée la situation, on a l'impression, que le politique n'existe plus, puisque on ne peut plus choisir collectivement un avenir commun, souhaitable, en fonction d'un certain nombre de critères, avec un certain éthos, avec ça. C'est dire que l'évolution du monde, de la globalisation, de la mondialisation, un peu comme un phénomène naturel, comme une phase de l'évolution de l'espèce humaine, presque, qui est quelque chose qui nous est imposé, qui s'impose à nous, et il n'y a pas d'autre choix que de s'adapter, c'est un discours qu'on entend, qui est un discours assez dominant, quand même. Et est-ce qu'on se pose la question de savoir s'il y a des choses sur lesquelles on pourrait faire autrement? Est-ce qu'on est obligé de traiter tous les signer tous les traités de libre-échange ou de les négocier? Bien sûr qu'il y a un choix. Bien sûr qu'il y a la possibilité de faire autrement. C'est un discours. Il y a des éléments d'interdépendance mondiale qui fait que c'est compliqué tout ça. Je suis d'accord avec vous. Mais comme dit Hervé, il y a quand même cette sorte de discours qui est dire si tu veux faire autrement, eh ben mon gars, t'es à côté de la plaque en quelque sorte. T'as pas compris le monde tel qu'il est, etc., etc. Donc c'est la fin du politique, c'est l'ère post-politique. Donc quand on est dans une ère post-politique, qu'il n'y a plus que la substance du politique, comment les gens pourraient encore croire à la notion même de démocratie? J'entendais Dominique Régnier, le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, Fondapol, qui vient de sortir une étude sur les taux de confiance dans la démocratie. C'est une catastrophe. La plupart des gens ne croient pas à la démocratie aujourd'hui, ou au caractère opératoire de leur vote. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas qu'en mettant un bulletin dans l'urne, ça a une véritable incidence et qu'ils choisissent vraiment quelque chose. Et il explique que 40% des jeunes, c'était il y a deux jours, ils ont publié ça, 40% des jeunes verraient très bien un régime qui, avec un patron, un régime autoritaire en fait. Oui. C'est-à-dire 40% des jeunes qui sont biberonnés à l'école, à la démocratie et au vivre ensemble, et à plein de belles valeurs, je ne dis pas que c'est mal tout ça, et bien 40% vont dire, mais bon, nous, un régime autoritaire, ça nous irait bien. Mais ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend, de tout ce qui est le commun, etc. Donc c'est Régnier qui disait ça il y a deux jours, 40%. C'est ce qu'a étudié Fondapol. Je n'ai pas regardé le détail de l'étude comme j'ai regardé celle de Guy Louis, donc je ne peux pas vous en défendre la méthode, mais je vous dis ce que dit Dominique Régnier. Donc on voit bien qu'il y a un problème, et on se pose la question de la puissance d'agir, ou de la capacité d'agir dans ce monde. Comment agir encore dans ce monde? Les gens qui travaillent se posent la question de la capacité d'agir et de leur marge de manœuvre dans leur propre travail. Ceux qui prennent leur voiture pour aller dans la tour de la Défense, pour travailler, deviennent souvent, tels qu'ils en témoignent, des exécutants en col blanc. C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'ont pas le choix, ou ils sont dans des processus qui les dépassent complètement, et le sentiment de ne même plus pouvoir marquer son travail, de sa subjectivité, de soi, quoi, des années de soi. Donc la crise du travail, donc ça c'est... un aspect important sur lequel travaille Pierre-Yves Gomez et Mathieu Deschessar, qui est un des larrons de la bande, là, qui lui travaille sur la question du travail, justement. Il dit que la question de la crise du travail, alors là, elle touche beaucoup plus largement que la France périphérique, sur le sens du travail. Quel est le sens de mon travail? Beaucoup plus largement. Et là, on va toucher des classes urbaines, aisées, etc. Lui, il intervient dans les entreprises, il fait des études de terrain et rencontre des cadres qui gagnent très bien leur vie et qui disent « Mon travail, je me demande quel en est le sens et à quel moment j'ai encore une marge de manœuvre par rapport à un certain nombre de ce qu'on appelle de process qui tombent d'en haut. » Donc tout ça crée un sentiment d'impuissance d'agir, d'incapacité à agir. Donc, sommes-nous capables de retrouver une capacité d'agir, de marquer le monde? Et le monde, c'est ce qu'il y a devant nous déjà. Donc, comment pourrions-nous imaginer reprendre pied sur ce monde, remettre les deux pieds sur ce monde, en commençant par l'échelon local, par exemple? Que peut-on faire déjà à l'échelon local, là où on habite, avec les responsabilités qu'on a, etc. Donc la deuxième phase de l'appel pour un nouveau catholicisme social, ça va être un appel pour une mobilisation de terrain pour une enquête sociale. L'enquête sociale, c'est une méthode qui avait été utilisée par les catholiques sociaux au XIXe siècle. Donc on les copie, ce qu'ils ont fait a marché. Donc on se dit peut-être que ça peut aussi marcher. Il y avait un certain Villeneuve-Bargemont qui a fait la première enquête sociale dans les mines du Nord, hein, auprès des ouvriers mineurs du Nord. Et c'est comme ça qu'ils ont procédé, c'est comme ça qu'ils ont pris contact avec le réel. Parce qu'il ne s'agit pas de plaquer une idéologie extérieure sur tout ça, même si on a tous des opinions, moi j'en ai, etc. Donc il faut essayer de se dégager de ces idéologies. Donc proposer, et un texte va paraître prochainement, Hervé d'ailleurs a accepté de le signer, hein, un syndicaliste chrétien qui est là, qui va appeler une mobilisation par le biais d'une enquête sociale à mener en avril et mai, et ensuite proposer aux personnes qui veulent s'engager sur cette voie d'un nouveau catholicisme social une journée de fondation et d'élaboration le 15 juin à Paris, à la Bourse du Travail, donc organisée notamment en lien avec la CFTC. Et élaborer une capacité, essayer de voir ce qu'il est possible de faire pour reconstruire des communautés civiques, se ressaisir de la chose civique, sachant qu'on a senti dans le mouvement des Gilets jaunes qu'il y avait une volonté civique aussi, très erratique ou comment dire, un peu désordonnée. Hein,
oui, mais... deux éléments pour compléter. Le premier, c'est que si on interroge les Gilets jaunes au rond-point, ils sont très heureux de refaire communauté autour de feu de camp. Ça, c'est incroyable la joie qu'ils ont à se donner des nuits pour servir un idéal de société. C'est très important. Parce que ça redonne du sens à leur vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport aux enquêtes dont tu parles, Guillaume, il y a deux vertus à ces enquêtes. Un, la vertu immédiate, c'est qu'on crée un lien de confiance parce qu'on écoute les gens. Et les gens ne se sentent pas écoutés. Quand on va frapper à leur porte et qu'on leur pose la question « Et vous, que vivez-vous ?», ça leur fera du bien. Et donc, c'est la première vertu, c'est aller à la rencontre des vraies personnes, pour sortir de l'idéologie. Et la deuxième vertu, c'est de savoir effectivement, alors là, c'est la connaissance, c'est plus le lien social, amical ou de confiance que l'on crée, mais c'est la connaissance que l'on a des réalités de terrain. Mais ça, je dirais que les réalités de terrain, elles ne nous échappent pas. Je veux dire, nous, syndicalistes, ou la grosse semaine sociale de France, je veux dire, on le fait depuis très longtemps, en fait, c'est quasiment notre fonds de commerce. Simplement, là, ce qui est appelé à faire, c'est descendre d'un cran, c'est sortir de nos têtes pour aller dans le cœur à cœur. Enfin, il y a quand même ça. Ce qui m'intéressait dans la démarche, c'est ça.
Et j'ajoute comme une troisième vertu, c'est pour celui qui va enquêter lui-même. C'est un contact. Il y a quand même une sociologie différente, en moyenne, en général, entre le catholique pratiquant aujourd'hui et la France périphérique. Dans les zones dépeuplées, un peu désertiques, la France périphérique, le catholicisme est peu vivace. Les paroisses sont assez vides, vieillissantes, c'est pas un défaut, mais c'est un constat. Et le catholicisme est un peu plus dynamique dans ces fameuses zones urbaines dont on a parlé. Hein. Donc les 25 aires urbaines. Et puis avec une sociologie davantage en majorité, beaucoup plus profession intellectuelle supérieure, cadre ou autre, etc., que la sociologie des profondeurs de la France. Donc il y a aussi cette question de la sociologie qui joue, et c'est une vertu aussi pour celui qui va sur le terrain enquêter, que lui-même rejoindre une sociologie qu'il ne connaît pas forcément, comme le pape François dit, aller aux périphéries, là on est en plein dedans. Hein, on est en plein dedans, le fait d'aller aux périphéries, alors c'est pas un travail d'évangélisation, c'est un travail civique. Les catholiques peuvent aider à reconstruire des liens qui permettent de faire vivre des communautés qui se saisissent ensemble d'un destin commun, et pour faire des communautés de destin. Parce que si la France continue dans la fragmentation, dans la fracturation, et où ceux qui se plaignent à juste titre des conditions qu'ils subissent, ne sont que uniquement dans la revendication, dans la protestation, et probablement faut-il protester, hein, je ne dis pas ce qu'il ne faut pas protester, mais qu'il n'y a pas de capacité de construction civique à côté de ça, qui est aussi une manière de canaliser la violence. La violence, c'est une énergie. C'est une énergie qui s'exprime. Donc l'énergie qui s'exprime, elle peut aller vers le bien ou vers le mal. Hein. Il s'agit de trouver les canaux pour la faire aller plutôt vers le bien. Et je crois que, je suis convaincu que c'est les catholiques peuvent apporter cela. Et Jean-Luc Marion, qui est académicien de l'Académie française, philosophe, il a écrit un livre il y a un an environ. Il s'appelle Le moment catholique. Il a dit c'est le moment pour les catholiques d'apporter quelque chose parce qu'ils ont à la fois des repères sûrs et cette capacité de penser l'universel, d'aller au-delà de la seule communauté catholique ou de sa sociologie, etc. Donc porter un certain universel, et là on parle d'universel au niveau d'un pays, puisque c'est la première communauté politique, c'est la nation, et puis au-delà, hein, puisqu'on est sur des problèmes mondiaux, l'injustice sociale est très répandue, pas seulement dans les pays où les gens se vivent comme semi-esclaves, mais aussi dans nos pays développés, dans nos propres pays développés. Donc moi je suis convaincu, que, et j'espère, que les catholiques peuvent se mobiliser et apporter leur part à la reconstruction de véritables communautés de destin, d'embarquer des communautés de destin, en commençant par l'échelon local, vers une construction commune. Hein. C'est-à-dire que si on attend tout de l'État, ou si on attend tout du moment où le super candidat sera élu pour faire les excellentes politiques publiques dont, évidemment, la France a besoin, je ne peux pas dire dans l'avenir, mais il est possible qu'on attende un certain temps quand même. Donc commençons maintenant, et c'est le message que nous voulons passer, et le second appel qui va être publié très prochainement ira dans ce sens. Maintenant, si vous l'oubliez, on peut continuer à échanger. Merci beaucoup. J'ai parlé 40 minutes, ça va ?
Bien sûr.
Oui. Sinon, à un moment, il faut que je m'arrête. Hein, parce que...
Encore un peu de temps.
Oui, il y a le moment de papoter, mais on a commencé déjà. À discuter.
Oui, je voulais partager ce à quoi je travaille ici en ce moment avec le CERAS. Alors, le CERAS, c'est le Centre d'études et d'action et de recherche en action sociale. Donc, le CERAS, c'est une émanation jésuite du Centre Sèvres. Mm-hmm. On a travaillé sur la question du travail. Qu'est-ce que